Yes. Ah, d'accord, je t'apporterai la réponse. Bien, alors nous allons prendre la paracha de Chaye Sara, qui est une paracha assez longue. Mais il y a deux épisodes du récit auquel je voudrais me référer. C'est d'abord au début, l'achat de la cabane de Marpella par Abraham, à l'occasion de la mort de Sarah, et le problème que cela pose, différents problèmes. Enfin, on étudiera quelques versets à ce sujet. Et deuxièmement, j'allais dire surtout, mais on ne peut pas mettre d'ordre de priorité dans ces récits, c'est le mariage d'Isaac et les enseignements qu'on peut en tirer concernant la manière dont cela nous est raconté. Alors j'espère que vous avez quand même le contenu des récits historiques en tête. Mais je me référerai à certains versets spécifiques. S'il est nécessaire d'éclairer le contexte, vous m'interrogerez, bien entendu. Alors, une minute que ça se... Ça... Bien, alors nous prenons déjà le début de la paracha. Bien, première partie du verset 3 du chapitre 23. On apprend des versets précédents que Sarah est morte à Kiryat Arba. Je ne voudrais pas trop vous déranger avec ma toux du côté du cœur, c'est la toux cœur. Oui, je vais dire le bracha, ça va sortir. Baruch atah Elohim shekol olam.
Amen.
Et le verset Nom Kiryat Arba, Hébron. Le mot de Hébron signifie déjà, donne déjà l'idée d'une dualité. Mais Kiryat Arba la multiplie par deux, si j'ose dire. Et le texte donne un certain nombre d'indications. Mais regardez bien comment c'est formulé. Kiryat Arba et Hébron. Il y a donc une perspective historique. C'est que à un certain moment de l'histoire, cette ville s'appelle Hébron, mais elle est depuis, je cite là le Midrash, depuis l'origine de l'histoire de l'humanité, sous la définition de Kiryat Arba, la cité des quatre, elle est l'endroit où a commencé l'histoire humaine, d'après le Midrash, sont enterrés dans la caverne de Marpella, dont nous allons parler tout à l'heure, déjà Adam et Chava, et par la suite Abraham et Sarah, Isaac et Rivka et Rebecca, et Jacob et Léa. Si maintenant on a le temps, mais si vous vous rappelez, vous me signalerez, il est important de signaler cela, que c'est Jacob et Léa qui sont enterrés dans la caverne de Marpella, et pas Jacob et Rachel. Et on ouvrirait une parenthèse à un certain moment. Je crois que c'est important de le mettre en évidence, pourquoi cette différence. Et cela joue un certain rôle dans l'ordre du récit. Peut-être la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi il était nécessaire que Abraham achète la caverne de Marpella, alors que le possesseur de cette caverne, c'était Ephron ben Tsoar, de la peuplade, disons, des Hittites, était prêt à la lui donner en cadeau. Vous vous rappelez du récit, je ne reviens pas dans le détail. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Que Abraham doit acheter, kinyan, acquérir la terre qui lui est donnée par Dieu. Petite parenthèse que j'ouvre chaque fois. On a l'habitude de dire en français la terre qui lui est promise, la terre promise, mais il n'y a aucune expression de la Torah qui m'équivaut à cette traduction en français, qui est de mentalité un peu chrétienne. C'est-à-dire la terre promise. Il y a toute une philosophie derrière ce terme de promise, inaccessible. Elle est promise, mais il faudrait la mériter, et on ne la méritera jamais. Elle est promise, j'allais dire, ad vitam aeternam. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, il y a une certaine tendance dans la réflexion philosophique, pas religieuse, mais philosophique, sur le messianisme, que le messianisme authentique est celui qui se réalise jamais. C'est une promesse, c'est une dynamique, c'est une espérance. Et il y a là une mentalité qui n'a strictement rien à voir avec le pshat de la Torah. Même si vous entendez les discours de ce type, c'est surtout universitaire, mais dans des milieux juifs. Il faut bien faire attention à cela. Ceux qui ont étudié le Talmud savent que, indépendamment de tous les niveaux harmoniques de sens, allégoriques, mystiques, métaphysiques, le sens fondamental, c'est le sens pshat, c'est le sens qui correspond à la réalité des choses. Et c'est l'imprégnation de mentalité chrétienne de prendre comme postulat a priori un caractère abstrait, symbolique de l'enseignement de la Torah. La ligne de partage entre ces deux mentalités, c'est la relation à la Torah comme loi. Pour le judaïsme, la loi doit être pratiquée, réalisée. Mitzvot ma'asiyot, réalisée réellement. Tandis que dans d'autres registres, et en particulier dans la mentalité chrétienne, c'est symboliquement que ça se réalise. Mystiquement et donc mythiquement. Les théologiens chrétiens disent, en se servant d'un terme grec, pneumatiquement. Pneuma, c'est l'esprit, c'est le roi. Et il faut faire donc être vigilant à cet envahissement de la conscience juive à travers la culture moderne, de cette perspective qu'on a trouvée surtout dans le judaïsme d'Alexandrie. Vous avez entendu parler de Philon, de préférer une lecture allégorique et non pas concrète, réelle du judaïsme. Si j'insiste un petit peu, c'est parce que nous sommes confrontés à des problèmes, à des risques de ce genre par rapport à Eretz Israël. Très souvent, on entend dans les discours, même pieux, une Eretz Israël symbolique. J'en dis pas plus, vous avez compris, je vois ça au sourire de vos regards. Alors qu'Eretz Israël, c'est Eretz Israël réelle, concrète. Mais quoi qu'il en soit, la véritable ligne de démarcation, c'est Mitzvot Ma'asiyot. Pour vous raconter une anecdote qui me revient en mémoire, vous savez que je suis assez lié avec le père Dubois, donc je le connais assez, mais je le connais il y a depuis très très longtemps. Je l'ai connu immédiatement après la guerre mondiale, je vous passe tous les détails de ses péripéties, et je me souviens d'une des conversations que j'avais eu avec lui, et il était tout jeune, habillé avec sa robe de dominicain, hein, c'était assez impressionnant. Après, c'était la semaine de mes fiançailles. Et on était tous les deux très impressionnés. Et alors, c'est la première conversation que j'ai eue avec un dominicain. Pendant la guerre, j'étais assez lié avec l'aumônier catholique, l'aumônier protestant aussi, mais lui, c'était pas un dominicain. Et alors, pour vous dire à quel point j'ai perçu très rapidement ce que je voudrais essayer de vous communiquer, cette intuition, cette certitude déjà, qu'on ne peut pas dialoguer de mentalité aussi différente à mentalité aussi différente. On ne peut dialoguer qu'au niveau des connaissances. On ne peut pas dialoguer au niveau des convictions. Parce que le dialogue au niveau des convictions est en réalité un dialogue affectif, au niveau des passions. Il y a la logique réelle, la logique intellectuelle, et il y a la logique affective. Bon, j'en parle un petit peu, puisque quand même ça concerne l'atmosphère des problèmes que nous vivons actuellement dans la société israélienne. Quelle est la différence entre la logique intellectuelle et la logique affective? Eh bien, dans la logique affective, on décide d'abord de la conclusion du raisonnement, et ensuite on y arrive. C'est la logique des avocats. Vous rappelez ce que dit la Mishnah? Al taras atzmecha kerokhe adayanim. Le juge reçoit comme consigne: ne te conduis pas comme un avocat. Parce que la logique des avocats, c'est de décider à l'avance de la conclusion de leur raisonnement. Tandis que la logique intellectuelle, c'est celle qui part de points de départ clairs, évidents, et qui ne sait pas encore où le raisonnement mènera en conclusion. Vous comprenez la différence. C'est pourquoi je crois que c'est important de prendre conscience de cela. C'est de la perte de temps. Moi, je vis tout l'islam que de discuter au niveau des convictions. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Bon. Et je crois que ça pourrait aider beaucoup de couples en problème à résoudre leurs problèmes. Je reviens. Ah oui, je ne t'ai pas raconté l'histoire. Alors, on discutait sur ce qui nous séparera toujours, et que le christianisme prétend que la loi est accomplie. Quelle loi ? La loi de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire accompli dans cette affirmation ? Alors, on a discuté, on a pris des exemples, et on est arrivé à l'exemple suivant : tu ne te feras pas d'image. Et alors, je dis, bon, voilà, qu'est-ce que vous allez me dire ? Et d'ailleurs, le dialogue ne serait pas très différent entre catholiques et protestants. Chez les protestants, il y a beaucoup moins d'images, mais il suffit qu'il y ait une image pour qu'il y ait une image. Comment dire ça autrement ? Si vous mettez des zéros après 1, eh bien, ça fera des millions de zéros, mais c'est le 1 qui est important, l'image. Eh bien, alors il disait, oui, c'est vrai, la loi de Moïse interdit la représentation de Dieu, l'image de Dieu. Et bien, voilà, Dieu, dans sa grande bonté, a jugé que les hommes ne pouvaient pas se passer d'image. Alors, pour pas qu'il y ait de faute, il s'est fait lui-même sa propre image. Je ne sais pas si vous rendez compte. Hein. Il s'est fait lui-même sa propre. C'est joli en plus, l'image. Mais quand on est à ce niveau de discussion, la discussion est impossible. À moins de devenir grossier. Enfin, je veux dire, discourtois. Voilà un peu l'exemple qui m'est revenu en tête. Vous vous rappelez comment j'avais expliqué une fois cette expression de « à l'image de Dieu » c'est que quand Dieu a créé le premier homme, il lui a dit « si tu es sage, tu auras une image ». C'est à l'image de Dieu. Et puis rendez-vous au Sinaï. Au Sinaï, c'est Israël qui est arrivé, et Dieu lui a dit « tu seras sage et tu ne te feras pas d'image ». Un point. Mais la différence de niveau, rendez-vous à Jérusalem. Et à Jérusalem, on retrouve les images. Ceci dit, nous arrivons donc à ce premier épisode, l'acquisition kinyan de la caverne de Marpella par Abraham, et c'est le premier acte d'acquisition d'Eretz Israël par Abraham, par le peuple d'Israël. Ça commence avec Abraham. Et je crois que, aussi très en particulier, l'enseignement d'Ibn Ezra et de Nahmani, à ce sujet, sur ce point précis, pourquoi était-il nécessaire que Abraham achète ce champ, ce caveau, que Ephron ben Tsoar, qui en était le propriétaire, était prêt à lui donner en cadeau? Ça va mettre en évidence qu'il y avait un souci d'Abraham, qui est le souci de la Torah, d'assurer les droits d'acquisition de la terre, et que même ce souci, nous allons le voir dans le texte, n'a semble-t-il pas réussi. Cette préoccupation d'Abraham que l'acquisition soit irréversible, et bien finalement, vous m'aidez à le dire en français, c'est le moyen, ça n'a pas servi. Puisque nous voyons aujourd'hui que tout le monde admet qu'effectivement la caverne de Marpella, c'est le caveau des patriarches d'Israël. Et cependant, tout se passe comme si ça ne sert à rien, que tout le monde l'admette. Et c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble de l'État d'Israël. Tout le monde admet que Jérusalem, c'est la capitale éternelle, etc., etc. Vous allez voir comment les nuances des discours vont déjà s'avancer, que nous sommes tellement habitués à cela, et pourtant ça ne sert à rien. Et alors, voici quel est, et nous allons le voir sur le texte, l'enseignement central que je voudrais citer. C'est que, bien sûr, la situation historique nous dépassent. Nous n'arriverons jamais à l'identifier de la manière dont le texte en parle. Les habitants du pays de Canaan, se conduisent avec Abraham comme avec un être exceptionnel. Nessi Elohim Ata Bekirben. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Ça demande déjà être élucidé. Nous n'avons pas habitude de cela. Nous n'avons pas expérience de cela. Les habitants du pays, les occupants du pays, se conduisent avec Abraham, l'hébreu revenu de la civilisation de Babel, comme avec un être exceptionnel. Nessi Elohim, prince de Dieu. Je n'ai qu'une analogie littéraire, un peu historique aussi, à vous donner pour éclairer un peu cette difficulté. C'est ceci. C'est que il y a eu dans la civilisation occidentale aussi, et pas seulement, ce thème qu'il y avait des familles qui étaient de sang divin, des familles qui étaient de sang bleu. Vous pouvez se dire en France. D'ailleurs, je me souviens d'avoir essayé d'étudier ces choses-là. C'était très sérieux. Il y a eu un temps de l'histoire des hommes dans toutes les sociétés finalement. On admettait que certaines familles, certaines dynasties étaient divines. Peut-être que ça continuait sous une toute autre forme, mais avec un tout autre vocabulaire. J'étais très impressionné par le rite et le cérémonial à propos de l'enterrement de Staline. Et je crois que d'ailleurs les staliniens sont des enfants à côté de ce que nous sommes capables de faire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de cet ordre. Mais très réel dans les civilisations, en particulier en Europe, la civilisation européenne au temps du Moyen-Âge. Alors, ça peut paraître un peu simplement pour détendre le sujet. Il y avait des jurons au Moyen-Âge, pas le sang bleu, et c'était par le sang bleu. On jurait par le sang des familles royales. Vous vous rappelez tout ça? Je suppose. Eh bien, c'est un peu comme ça, peut-être qu'on peut comprendre qu'il y a eu, à ce moment de la civilisation, une intuition qu'il y avait peut-être des dynasties qui étaient d'un autre ordre que les dynasties des sociétés dont elles étaient la fonction royale. C'est très connu pour l'Égypte, en tout cas. Mais je me demande si encore au Japon, on n'est pas convaincu que la famille de l'empereur est une famille de ce type, quoi qu'il en soit. Voilà ce dialogue avec quelqu'un que l'on respecte comme s'il était de sang bleu, dans le sens que je ne voudrais pas dire dans un vocabulaire idolâtre. Le verset 6, et on reviendra sur le verset 3 maintenant. Lorsque Abraham demande un caveau en particulier, pas n'importe lequel, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il savait pour demander ce caveau-là et pas un autre. Alors les Hittites lui répondent, verset 6, « Shema'enu, écoute-nous, Adoni, Seigneur, Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince de Dieu parmi nous, le mifrar kevarenu kevoret metecha, parmi les plus choisis de nos caveaux, enterre ton mort, personne d'entre nous ne te refusera son caveau, Mikevo Metecha, d'enterrer ton mort. Verset 7. Vayakom Abraham Vaishtachol et Amaharez du Mleche, et Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Chet. Ici, c'était un des sept peuples qui occupait le pays à l'époque du retour de la famille d'Abraham au pays des Hébreux, qu'on appelle en ce temps-là le pays de Canaan, parce qu'il est en train d'être conquis par les Cananéens, qui se rangent parmi les peuples occupants du pays. Mais il y a les sept peuples, il y a les Cananéens, il y en a 10, il y en a 13, vous avez des sources différentes, mais qui s'étudient très attentivement, surtout dans le Zohar, ce sont des niveaux d'identité des nations qui occupent et réclament un droit de possession de la terre d'Israël, qui est appelée à l'origine la terre des Hébreux. Je ne vais pas revenir en détail dans ces références, vous êtes assez familier déjà à cela. Alors, le Zohar dit qu'il faut comprendre l'Ibn Echet en relation déjà avec les premiers temps de l'humanité, les fils du péché. Ce n'est pas ici de la même manière, Chet, mais le Zohar l'interprète de cette manière. Vaïdaber et Amlimor. Et voilà ce qu'Abraham va leur dire. Imiesh et Nafshechem. Si vous êtes d'accord, l'Igbor et Metim et Lefanaï, de me permettre d'enterrer mon mort devant moi, Shema Oni, écoutez-moi, Ufik Oli, et intercédez pour moi. La racine qui a de Piroli, c'est une racine qui, dans le sens immédiat, signifie heurter quelqu'un. Mais c'est une des expressions, un des mots dont on se sert pour dire la prière. Vaivgar Bamakom, à propos de Jacob. Il y a différents conduits de la prière. Il y a une prière insistante qui est désignée par cette racine de l'Ivgoar. Et intercéder à Ephron Ben Zohar, je reviendrai sur le nom du propriétaire en ce temps-là de cette caverne de Marpella. Veitenni et Merata Marpella à Sherlo, et qu'il me donne, retenez bien le verbe Naton, qu'il me donne, mais il va être précisé dans la suite du verset. La caverne double à Sherlo qu'il possède, à Shervitse Sadehu, qui se trouve à l'extrémité de son champ, et Abraham va acquérir et le champ et la caverne, c'est surtout Nahmani qui va nous l'expliquer, avec Kesef Malé, avec de l'argent franc. Je ne sais pas comment on peut dire Kesef Malé. Comment on dit en français? Mais ça sera. Voilà. Itemena Ali, Betokhachem, qui me la donne parmi vous, la Chouzat Kever, en héritage de caveau, de tombe. Ephron Yoshev Betor ben Echet. Or, Ephron était assis au milieu des fils de Chet et il était assis au tribunal. Chaque fois qu'il y a cette expression d'être assis au milieu de son peuple, c'est être assis à la porte de la ville au tribunal. Vayan Ephron achit et Abraham, et Ephron achit et répondit à Abraham, Beosne ben Echet, aux oreilles des fils de Chet, les chol baesha ayon le mort, à tous ceux qui venaient à la porte de sa ville, c'est le tribunal, en disant « Lo Adoni Shemaheni, non, Seigneur, mon Seigneur, mon Sieur, Monsieur, si vous voulez, mais c'est mon Seigneur, en ce temps-là. Écoute-moi, Asadé Natatilar, le champ, je te l'ai donné, à Merana Sherbo, ainsi que la caverne qui se trouve en lui. Lechanetaticha, c'est à toi que je les donne. Les Aene Benerami, aux yeux de mon peuple. Je te l'ai donné, enterre ton mort. C'est là que nous avons nos problèmes. Voilà donc, Ephron, le propriétaire de ce champ et de ce caveau, était prêt à lui donner, il lui a donné. Et pourtant Abraham n'est pas satisfait. Verset 12, « Vaishtahu Abraham yifne amaret » et Abraham se prosterne devant le peuple du pays, « Vaidaber il Ephron » et il parla à Ephron de Osne amaret aux oreilles de son peuple, les mots en disant « Ah, seulement, imata lo shemaini, si seulement tu voulais m'entendre. » Ça veut dire « Tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas entendu. » Je ne sais pas comment on dit en psychologie, « Tu m'as entendu, mais tu ne m'as pas écouté. »« Tu m'as écouté, mais tu ne m'as pas entendu. » Natati que s'effaçade. J'ai donné l'argent du champ. Regardez ce qui se passe. Ephron n'a rien donné, mais il dit « J'ai donné. » Abraham n'a encore rien donné, mais il dit « J'ai donné. » On reviendra là-dessus. Karmimeni, prends-le de moi, Vekberet Meti Shama, et j'enterrai mon mort là-bas. Vayaran Ephron et Abraham les Morlo. Ephron répondit à Abraham en disant, Adoni Shemaheni, Seigneur, écoute-moi, Eret Alvar Meolche, quel kesef, déjà il lui a donné le prix. Oui. Un pays de 400 cycles d'argent, Beni ou Benechamahi, ils étaient tous riches à l'époque. Entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Donc on apprend que c'est au prix de 400 shekels d'argent que finalement l'acquisition, l'achat a eu lieu. Ces 400 cycles d'argent ont une origine. Ça se relie à un tout autre épisode que je n'ai pas le temps d'étudier en détail maintenant, donc je me demande à y faire allusion. C'est lorsque le pharaon a reconnu que Sarah était la femme d'Abraham et qu'il l'a congédiée, il lui a donné Kestut Enaim, en dédommagement, 400 cycles d'argent, et finalement, on retrouve ces 400 cycles d'argent Alors donc il y a une filiation entre cette histoire de Sarah et Abraham en Égypte, puis d'ailleurs chez Abimelech, et puis d'autre part l'acquisition de l'État d'Israël. Si on a le temps, on y reviendra. Mais pour le moment, on est au niveau quand même du récit Pshat. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Égypte en ce temps-là fait que il va falloir acheter le pays d'Israël, alors que ce pays d'Israël est donné à Abraham. C'est là que je vous ai raconté l'histoire du père du bois, hein, la différence entre la terre promise et la terre donnée, et qu'il n'y a aucun dialogue possible entre les deux. Je me rappelle même en avoir discuté avec André Chouraki, qui est le grand traducteur poétique de la Bible, et plus que de la Bible, et il appelait cela la terre de promission. C'est un joli mot pour dire la promesse qui s'accomplira jamais, et avec laquelle on a toutes les stratégies du monde pour faire qu'elle ne s'accomplit pas. C'est une mentalité, c'est-à-dire en hébreu, mais la question reste, si c'est la terre des Hébreux, pourquoi il faut l'acquérir? J'agis toujours sur la même question. Alors, sur ce point-là, voici la réponse à cette difficulté. Il y a deux contrats possibles, le contrat de donation et le contrat d'acquisition. Or, c'est Shtar Matana, contrat de donation, ou Shtar Kinyan, le contrat d'acquisition. Or, la législation talmudique préfère toujours le Shtar Kinyan, même pour, sur une pruta, à un Shtar Matana. C'est-à-dire, le lien des droits de possession sont apparemment les mêmes s'il y a eu un contrat de donation ou un contrat d'acquisition. Mais il y a une force juridique et donc morale plus forte si c'est un contrat d'acquisition. Est-ce que c'est suffisamment clair? Par conséquent, ce qu'on découvre ici, c'est qu'Abraham pressent que ce pays sera disputé à sa descendance. Et alors, il veut en assurer les droits, juridiquement et moralement, de façon plus irréversible que par un contrat de donation. Est-ce que c'est clair jusque-là? La différence entre donner, prendre et acquérir, nous allons l'étudier dans une législation du Talmud concernant le mariage. Parce qu'effectivement, c'est la forme de cette acquisition du champ par Abraham qui va servir de base à l'établissement des procédures du mariage. Je vais aller assez rapidement pour qu'on ait le temps de voir la page du Talmud que l'on vous a distribuée. Eh bien, on revient au verset 3. Ça va vous aider un peu mieux à comprendre pourquoi il faut quand même qu'Abraham acquiert la terre qui lui appartient, puisqu'il est hébreu. Petite introduction, très rapide, du point de vue historique. Abraham ramène Tourkazim, de la civilisation de Babel, son identité hébraïque, mais une identité hébraïque qui était un peu à l'indice araméen, à l'indice de l'exil. Je le dis surtout pour ceux qui n'ont pas déjà étudié ces notions, la différence entre l'hébreu et l'araméen, c'est que l'araméen est l'hébreu de l'exil au temps de la civilisation de Babel. De la même manière que le juif est l'hébreu de l'exil au temps de la civilisation romaine. Je ne vais pas entrer dans trop d'analyse sémantique sur ces catégories-là. Alors on comprend pourquoi il va falloir tout un effort de désintoxication de ce que les kabbalistes appellent la klipat aram, l'écorce d'aram. L'identité hébraïque est enfouie sous une écorce, qui est l'écorce araméenne, qu'elle ramène d'exil. Et tout cet effort d'Abraham à Jacob qui reçoit le nom d'Israël est pour se débarrasser de ce que l'écorce de l'identité aram a sédimentatisé, pour dire, sur l'identité hébraïque enfouie. Est-ce que l'analogie est suffisamment claire? Nous vivons un processus assez analogue. D'une certaine manière, alors là, il faut que je sois clair, hein, parce que c'est un sujet qui demanderait beaucoup de développement. D'une certaine manière, pour retrouver notre identité hébraïque profonde, il faut finir par se débarrasser de ce qu'était le statut sociopolitique du juif de l'exil. J'ai pas dit l'identité juive, parce que l'identité juive profonde, c'est l'identité hébraïque traduite dans notre langue. Puisque les juifs de l'exil sont des hébreux qui parlent notre langue. Et la langue n'étant ici que le signe de l'identité culturelle et plus que culturelle profonde. Eh bien, nous vivons un processus analogue et très dramatique. Les problèmes de la société israélienne contemporaine en font foi. Je schématiserai un petit peu, si vous voulez, cette problématique. Mais pour dire que c'est cette histoire que la Torah nous raconte, le retour d'Abraham, l'hébreu, Abraham, l'hébreu, mais c'est son nom araméen, et jusqu'à ce qu'il devienne Abraham, l'hébreu, c'est le point de départ de cette réhébalisation, de cette identité des hébreux revenus de l'exil, de la situation de Babel, une seule famille. Les hommes se sont perdus dans la Shoah de Babel, le Midrash le précise, et tout cet effort qui mènera à Jacob Israël. Et très schématiquement, cette clipa d'Aram est évacuée en deux niveaux. La clipa extérieure part avec Ishmaël, qui est extérieure, comme Agar était extérieure à Sarah. La clipa intérieure part avec Esav, qui est intérieure, puisqu'il est le jumeau de Jacob et qu'ils ont la même mère. Ce sont deux efforts d'épuration d'identité, de réhébraïsation, et qui sont des processus historiques et sociopolitiques que nous vivons actuellement, plus qu'à un niveau culturel. Je crois même vraiment à un niveau profond. Quand même, puisque j'ai parlé de ça, je vais être clair. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi. Je vais vous donner un petit exemple de la manière dont le Midrash parle de cela. L'identité d'Israël, j'allais dire, est très difficile, est impossible à définir. Il y a deux noms dans la Torah qui sont impossibles à définir. C'est le nom de Dieu et le nom d'Israël. Et en ce qui concerne le nom d'Israël, et alors l'expression Dieu d'Israël, c'est la clé de la Torah. En ce qui concerne Israël, il y a quand même deux limites extérieures de l'identité d'Israël. L'une est Ishmaël et l'autre est Esav. Est-ce que c'est clair ça? Ishmaël est très facile à définir. Enfin, par rapport à Israël, c'est facile. Esav est très facile à définir. C'est Jacob Israël, et surtout le mystère Israël, qui est difficile à définir. Mais il y a quand même deux limites extérieures qui nous sont nominables. Un des Midrashim explique ceci sur le thème suivant. Il y a quatre catégories de personnes par rapport à la Torah. Ceux dont le comportement est bon, mais le nom n'est pas bon, n'est pas beau. Ceux dont le nom est beau, mais dont le comportement n'est pas beau, n'est pas bon. Et puis vous voyez les deux autres catégories, ceux dont ni le nom ni le comportement est bon, et ceux dont le nom et le comportement est bon. Alors en ce qui concerne la catégorie, une de ces quatre catégories, ceux dont le nom est beau, mais le comportement n'est pas bon, le Midrash explique qu'il s'agit d'Ishmaël et de Esav. C'est deux noms très honorables. Et voilà comment le Midrash les explique. Ishmaël, Shomea, El. Qu'est-ce que ça veut dire Ishmaël? C'est pas le pshat grammatical, puisque Ishmaël signifie Dieu écoutera. Alors, le Midrash explique Ishmaël, son identité, qu'il est Shomea, El. Il écoute Dieu. Ceux qui connaissent la religiosité musulmane, puisque c'est au niveau de l'islam, de la religion musulmane, que l'identité Ishmaël est redevenue religieuse, elle était idolâtre jusque-là. C'est à la fondation de l'islam par Mahomet que Ishmaël rentre dans la foi d'Abraham à sa manière. Eh bien, ceux qui sont familiers à la religiosité musulmane, moi je me souviens, puisque je suis né dans un pays d'islam, qu'est-ce que c'est qu'un musulman priant? Vous en avez une petite idée quand vous les voyez prier à la télévision ou si vous entendez le muezzin, mais c'est une identité humaine qui est capable d'écouter la voix de Dieu. Le mot Ishmael dans le Pshat signifie l'inverse, c'est que Dieu écoutera. Quand ? Dans l'avenir. Eh bien, la prière d'Ishmael est une prière authentique. Dans cette grande difficulté de l'exil, Israël chez les musulmans, c'était surtout chez les Sfaradim, Israël chez les chrétiens, c'était surtout les Ashkenazim. C'est très différent la sensibilité d'un Ashkenaz passant devant une église et la sensibilité d'un Sfarad passant devant une mosquée. En fait, pour la halakha, il est possible pour un juif de prier dans une mosquée. Les Arabes ne veulent pas. Mais pour la halakha, ce serait possible. Tandis que prier dans une église, c'est un autre problème. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Eh bien, et la prière musulmane est une prière monothéiste. Ishmael, Shomea, El. Et puis, Esav, alors je vous écris pas au tableau pour ne pas me lever, mais suivez la prononciation. Esav, Ose, Retson, Osav. Il accomplit la volonté de celui qui l'a fait. Ose, il fait, Retson, la volonté, Osav, de celui qui l'a fait. Alors c'est très frappant de voir, à travers ce midrash, ces deux limites extérieures de l'identité israélienne. Ishmael est à la tendance du Nishma, alors que Esav à la tendance du Naasé. Et Ishmael, c'est Naasé Benishma. Et Israël, c'est Naasé Benishma. Ça veut dire il y a une espèce de problématique d'identité à travers ce minage qui est très clair. Il y a en Israël des tendances d'échec. Ceux qui sont que Naasé et pas Nishma, et ceux qui sont que Nishma et pas Naas. L'un a tendance à être Esav, et l'autre a tendance à être Ishmael. Il y a des tendances à être les limites extérieures de l'identité d'Israël en Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Alors ce que je vais dire est très très schématique, ne me faites pas dire des choses que je ne veux pas penser. Vous avez remarqué ce que j'ai dit. Et on ne peut pas ne pas voir ça en schématisant, bien sûr, parce que toutes les exceptions sont possibles. La personne humaine à l'échelle individuelle est toujours paradoxale. Eh bien, les Sfaradim en général ont plus tendance au Nishmar qu'au Naasé. Et les Ashkenazim en général ont plus tendance au Naasé qu'au Nishmar. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Je vais vous raconter une anecdote en citant d'ailleurs de qui je la tiens. Il s'agit du Rav Jaïs, a été grand rabbin dans une communauté sfarad, c'était Constantine en Algérie, un pays musulman. Constantine est très musulman, et aussi il a été rabbin dans une communauté ashkénaze, c'était, si je me souviens bien, à Guenau, en Alsace, il y a longtemps. Et alors il m'a raconté un jour l'histoire suivante. Il m'a dit, à Constantine, j'avais un paroissien qui faisait partie du consistoire de la Keïla, comment on appelle ça ? Le Vahad de la communauté. Le comité, voilà. Et puis, mais qui faisait aucune mitzvah. C'est une notabilité de la ville. C'était un temps d'ailleurs où il y avait des familles notables comme ça. Et puis, aucune mitzvah. Si n'importe quelle mitzvah qu'il fallait faire, il ne la faisait pas. Et puis un jour, ce brave juif lui apporte une bouteille d'huile. Et il dit, monsieur le rabbin, je voudrais vous mettre de l'huile dans la veilleuse de Eliyahu Navi. Parce que j'ai rêvé hier soir d'Eliyahu Navi. Alors le rabbin lui dit, comment ? Aucune mitzvah en fait. Et vous m'apportez de l'huile pour la veilleuse d'Eliyahu Navi, parce que vous avez rêvé d'Eliyahu Navi. Alors ce brave juif lui dit, quoi, monsieur le rabbin, vous y croyez pas ? Alors ça c'est un premier type de juif. À Agenou, bon, le temps a passé, donc je parle de personnes de connues, le président de la communauté était un homme extrêmement pur. Mais alors, toutes les misotes qu'elle avait à faire, il les faisait. Premier à la prière, etc. Et puis un soir de Pessah, le rabbin, le grand Jaïs, a fait un discours sur les miracles de la sortie d'Égypte. Alors à la fin de l'office, le président l'a félicité en lui disant, vous avez très bien parlé, mais vous savez, ces histoires de miracles, il faut raconter ça au Talmud Torah, ma petite fille. Alors le grand Jaïs qui me dit, lequel des deux est juif? Oui, un, c'est Nishma et rien de Naasé, de limite. L'autre, c'est Naasé et Nishma, c'est un problème, c'est miracle. Okay? Alors je dis, vous prenez le fils de l'un, la fille de l'autre, et vous allez faire un juif avec ça. voilà un petit peu, si vous voulez, ce... Pourquoi je vous ai parlé de tout ça?
Pour
les
Nishma.
Il y a quatre chemins.
Il y a
cinq
chemins
qui sont...
Non.
Les
portes
extérieures.
C'est les limites
des portes extérieures.
Vous allez commencer par
les curations. Ça y est, ça y est. Alors, Abraham revient avec l'identité hébraïque devenu Aramaïen en exil. Or, c'est pas toutes les dimensions de cette identité hébreu revenu d'exil de la famille d'Abraham qui peuvent être Israël. C'est le résultat de trois générations d'évacuation de l'identité arabe. L'identité arabe, elle va se déposer comme telle dans la descendance de Lot, Amon et Moab, dans la descendance d'Ishmaël, dans la descendance de Esav. Et c'est l'identité hébraïque revenue d'exil, débarrassée de l'identité arabe, qui deviendra Jacob, qui reçoit le nom d'Israël, parce qu'il est enfin l'hébreu absolu. Est-ce que c'est clair ? Je suis arrivé au bout du raisonnement.
C'est clair pour tout le monde.
Et par conséquent, c'est la réponse à notre question. Pourquoi il faut donner et spécifier à la descendance d'Abraham par Isaac et Jacob cette terre qui est la terre des Hébreux? Parce qu'elle sera réclamée par les autres lignées. Mais il n'y a que Jacob devenu Israël qui est vraiment l'Hébreu et qui a donc droit à la terre des Hébreux. Je suis arrivé à clarifier cela. C'est bien clair? Vous voyez, au point de départ, donc je sens sur vos visages, c'est pas encore clair. Au point de départ, notre question est la suivante. Nous savons que c'est la terre des Hébreux. C'est un verset dans le chapitre 46, je crois, de la Genèse. Pourquoi il faut confirmer, c'est le mot que je cherchais, à Abraham que dans sa descendance, par Isaac et par Jacob, cette terre lui appartiendra? C'est la sienne. Parce que, l'hébreu revenu de la situation de Kasdim est araméen et a donné naissance à des lignées dérivées de la famille d'Abraham qui ne sont pas hébreux vraiment. Il n'y a qu'avec Jacob devenu Israël qu'on a retrouvé l'identité hébraïque vraiment. Voilà, c'est clair jusque-là. Je vous ai annoncé, j'ai vu, mais à la fin. Je ne fais pas penser à autre chose. Je vous ajouterai une explication du Maharal qui pose une question très importante, à propos d'un verset que nous aurons l'occasion d'étudier d'ailleurs, à propos de Pessah. C'est Abraham déjà, à Abraham déjà, que est annoncée l'éventualité de l'exil. Et il s'avérera où cet exil se fera, là où la civilisation du temps était la plus forte. Il s'avérera par la suite que cet exil sera en Égypte. Et alors, le Maharal pose la question suivante. Puisque c'est à Abraham déjà, et c'est pas maintenant le moment de se poser la question et pourquoi. Mais si c'est à Abraham déjà que l'exil est annoncé, pourquoi l'exil n'a pas commencé avec Abraham? Pourquoi il faut attendre Jacob pour que l'exil commence? Alors le Maharal répond, parce que la confirmation, vous avez compris pourquoi je ne dis pas la promesse, la confirmation de la possession de la terre des Hébreux est toujours liée à l'éventualité de l'exil. Et si il n'y a que la descendance d'Abraham qui accepterait l'éventualité de l'exil, qui a droit à la terre des Hébreux. C'est aussi un autre problème, mais on y arrive. Et si l'exil avait commencé avec Abraham, Ishmaël aurait été concerné. Et si Ishmaël avait connu l'exil, il aurait des droits sur la terre.